Ce soir, nous avons un thème qui est intitulé « Jésus au nombre des malfaiteurs ». Jésus au nombre des malfaiteurs. Vous savez, chers amis, qu'aujourd'hui, un souci majeur de la société, aussi bien à l'école, dans la famille, dans les rues, un souci majeur de la société aujourd'hui, c'est la violence. La violence est un peu partout. Vendredi soir, nous avons commencé une série de conférences. Tandis que nous étions ici vendredi soir, on pouvait lire dans la presse qu'un adolescent de 16 ans a été tué à Marseille par balle et deux autres personnes, dont un enfant de 11 ans, ont été blessés. L'enfant de 11 ans a reçu des balles au cou, dans le bras et dans les jambes. Un enfant de 11 ans. Et un adolescent de 16 ans a été tué. Mais ça ne se passe pas qu'à Marseille. Parce que si vous regardez simplement cette photo, peut-être que vous reconnaissez notre quartier, peut-être que vous reconnaissez Dillon, ça ne fait pas si longtemps, on a eu cette scène terrible dans notre propre quartier. La violence est partout, elle est en France, elle est ici, elle est à Dillon, elle est à l'école. Et elle est surtout, et malheureusement, dans nos familles aussi. La violence, elle est partout. Et on est très embêté, car on n'arrive pas à juguler cette violence. Par exemple, regardez cette affiche. Peut-être que certains d'entre vous connaissent cette affiche. « Je m'en sors mieux avec vous, ensemble, continuons d'avancer. » Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi cette affiche? C'est tout à fait d'actualité. C'est quoi? C'est la 10e campagne de lutte contre les violences faites aux femmes menée par l'Union des femmes de la Martinique. Cette campagne a commencé vendredi 19. Vendredi 19, on a commencé une campagne en Martinique pour dénoncer la violence faite aux femmes, aux filles, au travail, à la maison, un peu partout. Mais vous avez noté, c'est la 10e campagne. Ça veut dire que ni 10 ans nous a dit ça, ni 10 ans nous a dénoncé, ni 10 ans nous a fait campagne, ni 10 ans nous a pris la télé, ni 10 ans nous a fait marche, malgré tout, ben elle n'a pas qu'à finir. Si nous sommes sous 10e campagne, ça veut dire que ni 10 ans nous avons milité pour ça et rien pas qu'à changer. Mais j'aimerais vous dire que ceux qui font ça, celles qui font ce travail, nous les encourageons, nous les approuvons, nous les soutenons, car il faut dénoncer toute forme de violence. L'Église adventiste elle-même a sa propre campagne pour dénoncer les violences faites aux femmes. Le titre, c'est « End it now », c'est-à-dire en français « Finissons-en maintenant ». Finissons avec quoi? Finissons avec quoi? Cette campagne de l'Église adventiste, elle a commencé depuis octobre 2009. Depuis octobre 2009, nous menons une campagne mondiale à l'Église adventiste pour dénoncer les violences faites aux femmes. Les adventistes disent non à la violence contre les femmes. Et si vous êtes curieux, notez le titre, allez sur Internet et vous trouvez tout le matériel qu'il faut. Vous pourrez trouver une pétition que vous pourrez signer. Pourquoi est-ce que l'Église adventiste s'est lancée dans une telle campagne? Parce que dans le monde, environ une femme sur trois expérimente la violence dans sa famille. Une femme sur trois, pendant sa vie, sera violentée soit par son père, soit par son frère, soit par son mari, soit par ses enfants. Une femme sur trois dans le monde. Mais quand on va dans certains pays, le taux augmente. Ce n'est plus une femme sur trois, mais c'est 70% des femmes. Dans certains pays, le dessert de ces dames, c'est une raclée. C'est vrai, dans certains pays, on bat les femmes comme ça, pour un oui, pour un non. On les bat, on les lapide. Il y a une violence extraordinaire dans ce monde. Mais je répète, ce genre de campagne, nous l'avons commencé, Église Adventiste, en octobre 2009. Et pourquoi on ne l'arrête pas? Parce que violence n'a pas qu'à arrêter. Depuis 10 ans, l'Union des femmes mène ce combat en Martinique, un bon combat. Mais depuis 10 ans, rien ne change. Et dans le monde, ce combat contre la violence est mené depuis bien plus que 10 ans. On a dépensé des fortunes, mais ça n'a pas encore changé. Où est le problème, mes amis? Qu'est-ce qui manque à nos campagnes? Qu'est-ce qui manque? Eh bien, vous savez ce qui manque? C'est que nous manquons de nous attaquer à la racine du problème. Nous manquons de nous adresser à la racine du problème. Oui, il faut faire des campagnes. Oui, il faut faire des marches. Oui, il faut dénoncer. Oui, il faut faire de l'affichage. Mais surtout, il faut que nous revenions à Jésus-Christ et à sa parole, car c'est la solution au problème du mal. C'est la solution à la violence sous toutes ses formes, même dans le foyer. Prenez vos Bibles avec moi et lisez avec moi, je vous prie, dans le livre de Malachie. Et vous verrez que Dieu a un discours sur la violence faite aux femmes. Dieu a une parole à cet endroit. Dieu dit, il faut que vous reveniez à moi pour que vous puissiez trouver le bonheur. Oui, mes chers amis, ce texte que nous allons lire dans Malachie, Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. C'est la fin de l'Ancien Testament. Dans Malachie, il y a un problème. Le peuple a abandonné Dieu. On ne prie plus. On ne lit plus la Bible. Le peuple a abandonné Dieu. Et quand on abandonne Dieu, à quoi est-ce qu'on arrive? Lisez avec moi. Malachie, chapitre 2. Et nous lisons ensemble, si vous le voulez bien, car vous avez vos Bibles et nous espérons que tout le monde a trouvé. Malachie, chapitre 2, verset 13. C'est Dieu qui parle. Et Dieu dit, « Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel. » L'autel, c'est le lieu de prière, le lieu des sacrifices. Dieu dit au peuple, vous couvrez de larmes mon autel. Ça veut dire qu'ils viennent à l'autel et ils pleurent. Tellement yo ka remise, tellement bagay la ret, yo ka pleurer en l'autel là. Et qu'est-ce que vous lisez encore? La Bible dit quoi? Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Alors ils prient, ils pleurent, mais Dieu ne s'occupe pas d'eux. Dieu n'agrée pas leurs offrandes. Mes amis, pourquoi? Parce que simplement, les gens font ce qu'ils veulent, comme ils veulent, là où ils veulent, avec qui ils veulent, et quand ils ont un besoin, ils viennent pleurer sur l'autel et ils disent, Seigneur, aide-nous! Et la Bible dit que Dieu n'a pas égard à leurs offrandes et à leurs prières. Mais quelle était une des dérives que Dieu dénonce dans le livre de Malachie? Verset 14. Et vous dites, comme Dieu ne répond pas, vous dites, pourquoi? Peut-être que ce soir, il y a quelqu'un qui se pose cette question. Pourquoi Dieu ne me répond pas? Pourquoi est-ce que Dieu n'agit pas dans ma vie? J'ai toujours entendu dire que Jésus a guéri des malades, qu'il a ressuscité des morts, qu'il a rendu la vue à des aveugles. Et moi, je prie, je pleure, je gémis, et le Seigneur ne me répond pas. Ils disent, pourquoi? Pourquoi tu ne nous réponds pas, Seigneur? Eh bien, Dieu répond, et Dieu dit pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit la compagne, ta compagne et la femme de ton alliance. C'est qui la femme de ton alliance? C'est ton épouse. Dieu dit au peuple, vous pleurez, vous avez des plaies, vous avez des maux, Vous voyez que je ne réponds pas. Pourquoi? Parce que vous êtes infidèles à la femme de votre alliance. Vous êtes mariés, mais vous commettez l'adultère. Vous êtes dans l'infidélité. Mes amis, quand on parle de violence faite aux femmes, est-ce que l'adultère, est-ce que l'infidélité n'est pas la première des violences? Est-ce que c'est l'esselement ou bien on a calotte qui a souffert? J'aimerais que les femmes qui sont là me soutiennent contre les hommes qui sont là. Mesdames, si vous voulez dire aux hommes que la première des souffrances qu'elles peuvent vous infliger, c'est l'infidélité, levez la main pour me soutenir. Les hommes ouvrez les autres. Mais oui, mes amis, la première des violences, c'est souvent l'infidélité. Et par l'infidélité, par une vie dissolue, par une vie déréglée, c'est souvent par là que commencent les violences. Pourquoi il y a souvent tant de violences? Pas toujours, mais souvent, parce qu'il y a un qui se sent bafoué, parce qu'il y a un qui se sent délaissé, parce qu'il y a de l'adultère, parce qu'il y a de l'infidélité. Et puis, non seulement ça, mais l'infidélité, cette vie dissolue, est en grande partie responsable d'une autre grande violence, qui est la transmission des maladies sexuellement transmissibles. Mes amis, si nous vivions dans une société de fidélité, comme Dieu le demande, si nous vivions dans une société selon la parole de Dieu, où chacun a sa chacune et chacune a son chacun, dans les liens sacrés du mariage, est-ce que vous croyez que nous aurions autant de cas de maladies sexuellement transmissibles sur la terre? C'est aussi une forme de violence, mes amis. Et Dieu plaide contre l'infidélité. Dieu plaide contre la violence faite aux femmes. Regardez un peu plus loin avec moi, si vous voulez bien. Regardez au verset 16 ce que Dieu dit. Toujours le même chapitre. Verset 16. Qu'est-ce que Dieu dit? Car je hais la répudiation, c'est-à-dire le divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui, donc Dieu dit, je hais le divorce, je hais la répudiation, mais il dit aussi, je hais celui, dites-le avec moi s'il vous plaît, qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Oui, mes amis, il nous faut mener des campagnes contre toute forme de violence. Mais si nous voulons avoir un résultat satisfaisant, il faut qu'en même temps, nous revenions à Jésus et à sa parole. Jésus a un plan pour le bonheur de l'homme. Jésus a un plan pour le bonheur de la famille. Ce plan, c'est le mariage, la fidélité, la chasteté avant le mariage. Et mes amis, puisqu'on a mis ce plan de côté, puisque chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, eh bien ce n'est pas étonnant que nous vivions aujourd'hui dans un monde troublé, un monde qui connaît la violence. Pourquoi? Parce qu'au départ, dans la société, on a enlevé Jésus de sa place et on a mis quelque chose d'autre à la place de Jésus. La parole de Jésus n'a plus sa place dans notre société. Aujourd'hui, la parole de Jésus est remplacée par El Diablo. On passe plus de temps à regarder El Diablo qu'à lire sa Bible ou à venir à l'église. On prend plus de conseils de El Diablo qu'on ne prend de conseils du Seigneur. On donne plus d'argent à El Diablo qu'on ne donne à la quête quand on va à l'église. Amen. Mais oui, mes amis, 40 euros, tout le monde paye sans sourciller. Tandis que lorsque nous faisons le décompte de la cébile de l'église, il faut que j'ai deux paires de lunettes pour compter les pièces de 5 centimes. Oui, mes amis, nous mettons des choses au-dessus de Dieu. Nous mettons des choses au-dessus du Seigneur. Le Seigneur passe après et résultat des courses, mes amis, le monde sombre dans la violence. Si tu veux changer quelque chose dans ce monde, tu peux peut-être continuer à militer dans toutes sortes d'associations. Mais il y a une association que tu dois aussi rejoindre, c'est l'Église de Dieu qui prêche la parole du Seigneur. Oui, mes amis, parce que dès que l'homme a mis Jésus là où il ne devait pas être et a mis ceux qui ne devaient pas être à la place de Jésus, le monde est parti en décadence. Regardez avec moi vous-même et vous verrez que le procès de Jésus est une image aujourd'hui, un symbole du fonctionnement de notre société. Le procès de Jésus est un exemple, une image de comment fonctionne notre société. Regardez, regardons ce qui s'est passé au procès de Jésus. Lisons l'évangile de Marc au chapitre 15. Marc chapitre 15. Et lorsque vous aurez trouvé, nous sommes dans le Nouveau Testament, donc Matthieu, ensuite Marc, deuxième livre. Marc chapitre 15. Vérifiez que votre voisin trouve bien la page. Marc 15. Et nous lisons à partir du verset 6. Marc 15 à partir du verset 6. Marc chapitre 15 à partir du verset 6. La Bible dit, à chaque fête de Pâques sous-entendu, il, Pilate, le gouverneur romain, à chaque fête de Pâques, le gouverneur romain relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Donc, chaque fois qu'il y avait la fête de Pâques, le gouverneur romain demandait à la foule, quel prisonnier voulez-vous que je libère? Pourquoi il faisait ça? C'était une manière de gagner la faveur du peuple. Et lorsque quelqu'un était en prison, mais quelqu'un que le peuple aimait bien, c'était l'occasion pour le peuple de sauver cette personne. Chaque fois, cela se passait. Et puis, lisez avec moi le verset 7. Il est dit, « Il y avait en prison un homme nommé Barabbas. Et il était en prison seul? Non. La Bible dit qu'il était en prison avec ses complices. Et vous avez vu que complice est au pluriel. Ça veut dire qu'il avait au moins deux complices. Barabbas est en prison. Il est là avec ses complices. Mais dites-moi, pourquoi est-ce qu'il est en prison? Pourquoi? Il est en prison pourquoi? Dites-le pour moi, s'il vous plaît. Pour un meurtre qu'il avait commis dans une sédition, c'est-à-dire dans une émeute. Qui est Barabbas? Barabbas, c'est un homme qui soulève la foule, qui déclenche une émeute, certainement pour essayer de renverser le colonisateur romain, mais dans son émeute, dans son action, Barabbas est violent. Avec ses complices, ils commettent un meurtre. C'est pour cela qu'on a arrêté Barabbas et Barabbas et ses complices sont destinés à la peine de mort. Barabbas et ses complices sont destinés à la crucifixion. Et puis regardez qui d'autre est en prison ce même jour-là. Qui d'autre est en prison? La foule, au verset 8, étant montée, se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» C'est qui le roi des Juifs? Dites-moi, mes amis, combien de meurtres Jésus a-t-il commis? Combien de séditions, d'émeutes Jésus a-t-il organisé? Est-ce que Jésus est un violent ou un non-violent? La Bible dit, « Lui qui injuriait ne rendait pas injure pour injure. » Jésus est un pacifique, un doux. Il ne commet pas des meurtres, il ressuscite des morts. On répète ça? Jésus ne commet pas des meurtres, il ressuscite des morts. Barabbas, révolutionnaire, meurtrier. Et Pilate va essayer d'orienter la foule. Pilate leur dit, écoutez mes amis, est-ce que vous voulez que je vous rende Jésus? Vous remarquez que Pilate oriente la foule, parce qu'il aurait pu dire simplement, qui voulez-vous que je relâche? Mais il ne dit pas ça. Il dit, est-ce que vous voulez que je relâche Jésus? Autrement dit, il leur dit, moi j'ai bien envie de relâcher Jésus. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Regardez avec moi. La Bible répond, dit encore, au verset 10, Pilate voulait lâcher Jésus, car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Il savait que Jésus n'était pas coupable, qu'il n'avait pas commis de meurtre. C'était simplement par jalousie. Simplement parce que Jésus avait beaucoup de succès, Jésus était populaire, et on n'aimait pas un homme plus populaire. Jésus n'a commis aucun crime. Il n'est pas violent. Mes amis, laissez-moi vous poser une question. Si vous étiez là, le choix entre Barabbas et Jésus, qu'est-ce que vous auriez demandé? Barabbas ou Jésus? Qu'est-ce que vous auriez demandé? Pardon? Maman, si Jésus... je sais que Jésus nous entend. Je pense que Jésus a déjà versé une larme depuis que j'ai posé la question. Parce que vous répondez avec tellement de conviction, Jésus doit dire ouais, ouais, ouais. Heureusement, vous partez là, sinon c'est pas crucifié seulement, c'est découpé, vous êtes découpé moi. Mes amis, si Jésus était là, si vous étiez là, entre Jésus et Barabbas, qui vous auriez demandé? Jésus. Mais la foule qui était là, qu'est-ce qu'elle a demandé? La Bible dit au verset 11, « Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate leur relâchât plutôt Barabbas. » Pilate, reprenant la parole, leur dit, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? » Ils crièrent de nouveau, « Crucifie-le !» Mes amis, comment expliquez-vous cela? Une société, une foule, un peuple qui a le choix entre un meurtrier, un agitateur et un Jésus, un tendre, un compatissant, quelqu'un qui guérit, quelqu'un qui pardonne, quelqu'un qui fait grâce. Et la foule dit, Barabbas, libérez-le, Jésus, crucifiez-le. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est en train de prendre Jésus et de le mettre à la place du meurtrier, lui qui est innocent. Et le meurtrier, on est en train de le prendre et de le mettre à la place de l'innocent. Oh mes amis, vous me dites que vous auriez demandé Jésus. Mais je vais vous dire qui vous auriez demandé. Vous auriez demandé celui qui a la première place aujourd'hui dans votre vie. Si aujourd'hui, Jésus a la première place dans ta vie, c'est Jésus que tu aurais demandé ce jour-là. Mais si aujourd'hui, quand tu regardes ta vie, Jésus n'a pas la première place dans ta vie, tu n'aurais pas demandé Jésus ce jour-là. Parce que, mes amis, lorsque nous faisons passer une relation adultère avant Jésus, Jésus a dit, marie-toi et vis dans les liens sacrés du mariage. Et que nous nous disons, non, 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 non. Jésus a dit ça, je vis dans le concubinage, je cours à droite à gauche, je fais ce que je veux. À ce moment-là, tu es en train de remplacer une chose coupable par Jésus l'innocent. Toutes les fois que tu mets quelque chose avant Jésus, c'est que tu es en train de demander Barabbas plutôt que Jésus. Mais mes amis, aujourd'hui, combien de parents se plaignent parce que leur jeune garçon ou leur jeune fille préfère des bad boys au garçon bien élevé qui vient avec les cheveux bien coupés. Alléluia! Combien aujourd'hui de parents qui sont prêts à faire un scandale avec leurs enfants? Si l'enfant dit, tu sais maman, tu sais papa, j'ai entendu parler de l'évangile, j'aimerais me donner à Jésus. Il y a des parents qui font un scandale avec leurs enfants pour cela, comme s'ils auraient préféré que l'enfant soit en boîte de nuit ou dans la drogue. Combien de maris interdisent ou compliquent la vie de leur femme, ou de femmes compliquent la vie de leur mari parce qu'ils veulent aller à Jésus? Mes amis, voici notre société. Notre société fait passer le mal avant Jésus. Et alors, quand nous faisons passer le mal avant Jésus, quel est le résultat? Le résultat, c'est ce que vous entendez à la radio chaque matin. Des meurtres, des crimes, des viols, des abus, des gens qui font du tourisme sexuel, qui violent des enfants. Voilà notre société. Pourquoi? Parce que la société rejette Dieu, rejette les commandements, rejette Jésus et préfère le mal plutôt que Jésus-Christ. Mes amis, regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, en parlant de Jésus, Dieu a déclaré en parlant de Jésus, c'est pourquoi, dans Ésaïe 53, verset 12, c'est pourquoi, je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants. Et encore, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis où? Où est-ce que Jésus a été mis? Au nombre des malfaiteurs. Mais pourquoi il a accepté ça? Parce qu'il a porté quoi? Les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Mes amis, voici ce qui s'est passé. Jésus a été mis à la place du malfaiteur et le malfaiteur a été mis à la place de Jésus. Tant que la société ne va pas inverser cela, rien ne va changer dans la société. Tant que chacun de nous ne va pas inverser cela, rien ne va changer dans ta vie. Tant que chaque famille n'aura pas changé cela, rien ne sera changé dans ta famille. Si tu veux que ta famille soit pacifique, donne à Jésus la première place. Si tu veux que ta vie change, laisse entrer le roi de gloire. Si tu veux être un membre actif dans une société de paix, adhère à un mouvement qui prêche la parole de Dieu. Et toi-même, dévoue-toi pour le Seigneur. La Bible dit que Jésus a été mis au nombre des malfaiteurs. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit que Jésus a été mis au nombre des malfaiteurs, dans la Bible, le mot malfaiteur a la connotation de meurtrier. Souvenez-vous, Barabbas, il était en prison tout seul ou avec des complices? Je ne vous entends pas. Avec des complices. Donc, les deux personnes qui ont été crucifiées avec Jésus, c'était eux, les complices de Barabbas. C'était des meurtriers, mes amis. Ces gars-là n'étaient pas là parce qu'ils avaient volé des chewing-gums. Ils étaient là parce qu'ils avaient tué des gens. C'était des meurtriers. Jésus a été mis au nombre des meurtriers. Un malfaiteur dans la Bible, c'est un meurtrier. Regardez, la Bible dit. Regardez ce que la Bible dit. Dans le psaume 59 au verset 2, la Bible dit, délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang. Un malfaiteur dans la Bible, c'est un homme de sang. Regardez encore. La Bible dit dans Osée 6, verset 8, Galaad est une ville de malfaiteurs. Elle porte des traces de sang. Quand il est dit que Jésus a été mis au nombre des malfaiteurs, la Bible est en train de dire qu'on a mis Jésus au milieu de meurtriers. On a libéré un meurtrier et on a mis Jésus parmi les meurtriers. Mes amis, voici la source, la racine de la violence qui est dans notre monde. La racine de la violence qui est dans notre monde, c'est que l'homme enlevé Jésus de sa place et l'homme a mis Barabbas à la place de Jésus. Barabbas, c'est n'importe qui ou n'importe quoi. Toute chose que tu fais passer avant Jésus, c'est Barabbas. Toute chose qui devient plus importante pour toi que Jésus, c'est Barabbas. Parce que quand tu fais passer quelque chose avant Jésus, comment deviens-tu meilleur? Pas du tout. Parce que mes amis, c'est Jésus qui nous sauve. C'est Jésus qui nous donne le pouvoir. C'est Jésus qui nous transforme. C'est pourquoi, mes amis, notre message ce soir, il nous faut militer contre toute forme de violence. Mais il nous faut surtout revenir à Jésus. Et quelle que soit la violence que tu as pu commettre, peut-être que tu as tué quelqu'un, peut-être que tu as blessé quelqu'un, peut-être que tu as été infidèle dans ton couple, peut-être que tu as malmené des gens, peut-être que tu as porté des faux témoignages et des personnes ont perdu leur travail. Peut-être que tu as menti au sujet de ton voisin. Peut-être que tu as dépassé la borne qui délimite ton terrain pour augmenter ton terrain. Quel que soit ce que tu as fait, il faut revenir à Jésus et ainsi tu auras le pardon de tes péchés. Il faut que la société revienne à Jésus, mais il faut avant tout que chaque individu revienne à Jésus pour avoir le pardon de ses péchés, quelle que soit la faute qu'il a pu commettre. Et j'aimerais ici que celui qui n'a jamais commis de violence lève la main. Celui qui n'a jamais menti, qui n'a jamais triché, qui n'a jamais été adultère, qui n'a jamais déplacé une borne, qui n'a jamais fait quelqu'un perdre son travail, celui qui n'a jamais fait une queue de poisson sur la route, et en plus, après la queue de poisson, celui qui n'a jamais volé. Mes amis, nous tous qui sommes ici, nous avons un jour ou l'autre commis une violence. Mais la Bible est en train de nous dire, si nous voulons régler un problème dans notre famille, dans notre vie, dans notre société, ce qu'il faut, c'est revenir à Jésus. Et quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ton passé, Jésus te pardonne. Tu veux le lire? Lisons cela dans l'évangile de Luc au chapitre 23. Luc chapitre 23, nous étions dans Marc, nous allons un peu plus loin, et après Marc, c'est Luc. Luc chapitre 23, regardez mes amis ce que la Bible déclare. Regardez ce merveilleux passage. Notez-le. Et ce soir à la maison, relisez cela. Luc chapitre 23, verset 39. Jésus est sur la croix, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Jésus est sur la croix, il est au milieu de deux brigands. Jésus est sur la croix, il est au milieu de deux meurtriers. Et pendant qu'il est sur la croix, Jésus, regardez cette scène incroyable. Verset 39, Luc 23, verset 39, la Bible dit, l'un des malfaiteurs, et vous pouvez remplacer malfaiteur par meurtrier, c'est la même chose dans la Bible. L'un des malfaiteurs, l'un des meurtriers, l'un des violents, crucifié, l'injurier. Alors, t'as là, bon petit bonhomme. Il est meurtrier, il est crucifié, a rien par changer. Pli bon ish maman. Bon petit bonhomme. Est-ce que nous allons être comme lui, mes amis? Est-ce que nous avons la vérité? Est-ce que nous attendons la vérité? Est-ce que nous exposer à Jésus? Et puis malgré ça, nous avons persévéré dans ce fait nous? Non, nous pas qu'on malfaite à là. Pas vrai? Nous plutôt qu'on l'autre là. Regardez l'autre. La Bible dit, je reprends, l'un des malfaiteurs crucifié l'injurier, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. En fait, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il ne veut pas le pardon de ses péchés. Il veut être sauvé de la croix. Il dit à Jésus, fais-moi descendre dans la croix. Mais d'après où là il descend, qui ça il fait? calter l'esprit ta qui en tête li là l'ai descendre qui ça qui fait autres savent que délai nous ca faire même bail là nous ca fumer petit cigarette nous et puis nous ca dit bon Dieu manni un petit poumon qui ca fait mal Jerry moi mais nous pas ca jamais dit bon Dieu fais moi quitter cigarette là nous ca fumer cigarette nous les bon Dieu Jerry nous mais Dieu où pour faire qui ça après virer commencer fumer cigarette et puis virer malade ou prend bon Dieu pour un yo-yo aller venir café. Non, mes amis, cet homme, il n'a rien de bon dans le cœur. Tout ce qu'il veut, descendre de la croix et recommencer à faire ses bêtises. Mais il y a un autre, au verset 40, mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation pour nous? Qu'est-ce qu'il dit? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on méritait. Nos crimes ou nos actes, il dit celui-là, boug, ou pas changer pièce. Nous, on les croit là, mais nous, nous méritons ça. Normalement, nous, c'est des meurtriers, nous, c'est des criminels. C'est place nous qui l'a. Oui, mes amis, notre place, c'est sur la croix. La place de l'homme, c'est sur la croix. Mais Dieu, dans sa bonté, dit, je prends ta place sur la croix. Dieu dit dans sa bonté, je donne ma vie pour les pécheurs, j'intercède pour eux, je meurs pour eux, je suis considéré comme un criminel alors que je ne suis pas criminel. Dieu dit, le criminel c'est toi, mais moi je prends ta place, je te sauve. Et l'homme dit, oui, c'est notre place, nous méritons, nous avons ce que méritent nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il dit, Jésus est un innocent. Et la Bible dit que Jésus répond. Et Jésus lui dit, à présent, on va demander pardon. Depuis le jour où je prêche l'évangile, ou pas jamais au type de moi, ou pas jamais intéressé à l'évangile, toutes les fois, je porte en bas à propos de l'évangile, ou toujours tourner dos, et puis je dis, je vais demander pardon, il est trop tard. Est-ce que c'est ce que Jésus répond? Est-ce que c'est parce qu'il aurait dû répondre? Logiquement. Mais oui, parce que cet homme-là, il vivait à Jérusalem. Jésus a fait des miracles à Jérusalem. Jésus a guéri des gens à Jérusalem. Jésus a prêché sur le mont des Oliviers. Certainement que quand Jésus prêchait, il tournait son dos. Il commettait des crimes et des vols. Il était dans son péché. Et là, sur la croix, il presse mort. La nuit qu'a fait en l'œil. Il a dit, bon Dieu, sauvez-moi. Prends pitié, dis-moi. Mais mes amis, Dieu ne lui fait aucun reproche en Jésus-Christ. Jésus-Christ ne lui fait aucun reproche. Jésus-Christ ne lui dit pas qu'il a eu des occasions, qu'il a raté. Jésus n'est pas en matière avec lui. Qu'est-ce que vous lisez que Jésus lui dit? Jésus lui dit, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ta gloire. Et Jésus lui dit, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Oui, mes amis, voici le deuxième message de la soirée. Quel que soit ton passé, quels que soient les crimes que tu as pu commettre, si maintenant, tu reconnais, tu confesses, Jésus ne te demande pas si tu es resté 20 ans dans le péché. Jésus ne prend pas contact avec toi pour ces choses. Si tu es sincère, si tu dis Jésus, pardonne mes péchés. Quel que soit ton crime, la Bible dit que ce soir, Jésus te dit, je te le dis ce soir, tu seras avec moi dans le paradis. Oui, mes amis, il nous faut revenir à Jésus. Il nous faut revenir à Jésus parce que quand on revient à Jésus, on obtient le pardon de nos péchés. Quand on revient à Jésus, on obtient le pardon de quels que soient nos crimes. Et mes amis, si un jour vous aspirez à vivre dans un monde sans violence, il faut aujourd'hui revenir à Jésus parce que Jésus revient bientôt. Et quand Jésus revient bientôt, c'est pour quoi faire? c'est pour établir un paradis sans violence. Lisons ensemble à haute voix ce que la Bible déclare dans le livre du prophète Ésaïe. Dites-le avec moi. Lorsque la Bible parle du paradis, lorsque la Bible parle du paradis que Jésus a promis à ce meurtrier, qu'est-ce que la Bible dit de ce paradis? Et l'on n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravage et de ruine dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de... Mes amis, voici le paradis que Jésus promet. Un paradis sans violence, sans inquiétude. Mais mes amis, ce pays-là ne viendra pas sur terre. Ce n'est pas un homme politique qui va l'instituer. Ce pays-là, c'est quand Jésus reviendra. Et regardez avec moi le verset 19, et vous verrez que c'est quand Jésus reviendra que nous aurons ce paradis sans violence. Verset 19, Ésaïe 60, verset 19. Avançons. Ce sera dans ce pays-là. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera... Oui, mes amis, le pays où il n'y aura plus de violence, c'est le pays où Jésus va régner en maître. C'est le pays où il n'y aura plus de lampe, parce que Jésus va éclairer ce monde. Ce monde, ce n'est pas la France, ce n'est pas le socialisme, ce n'est pas le capitalisme. Ce monde, c'est Jésus. C'est Jésus et Jésus seul, mes amis. Oui, mes amis, dites-le partout où vous êtes, que le problème de la violence, ce n'est pas le préfet qui possède la solution. Ce n'est pas le procureur qui détient la solution. Celui qui détient la solution, c'est Jésus, mes amis. Et pour que nous puissions revenir à un monde plus apaisé, il faudrait que le monde revienne à Jésus. Mais le monde, c'est quoi? Le monde, c'est une série d'individus. N'attendons pas que tout le monde revienne ensemble. Commence-toi par revenir à Jésus. Commence-toi par revenir à Jésus. Et si chacun revient à Jésus, c'est le monde qui gagne. Mais le monde gagne, mais toi aussi tu gagnes, parce que tu obtiens le pardon de tes péchés et tu obtiens l'espérance de vivre dans un monde où il n'y a plus de violence. Oh mes amis, quand nous entendons un tel message, nous ne pouvons pas repartir sans être bénis ce soir. Nous ne pouvons pas non plus repartir sans prendre une décision pour le Seigneur. Vas-tu entendre cela? Vas-tu prendre conscience de cela et repartir sans prendre une décision pour le Seigneur? Ne vas-tu pas dire au Seigneur, « Seigneur, attire-moi à toi. Seigneur Jésus, arrache-moi au mal. Arrache-moi au vice. Arrache-moi à la crainte. Arrache-moi au mal. Attire-moi à toi, Seigneur. Pour toi, Seigneur, je veux tout abandonner. C'est toi qui es la solution. C'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui donnes le bonheur. Seigneur, attire-moi. » Quels sont ceux qui veulent dire, « Seigneur, attire-moi à toi. » Parce que tu es la solution. Que Dieu vous bénisse, mes amis, et que Dieu vous fasse du bien. Oui, mes amis, c'est en Jésus que se trouve la solution. Mettons-nous debout et chantons cette prière ensemble. Attire-moi à toi, ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Jésus est tout pour moi. Jésus est la solution à tous les problèmes du monde.
Restaurer notre amitié.
Tu es mon désir.
Tu es mon désir.
Je ne veux.
Je ne veux que toi.
Qui me ramène
à toi.
n'est pas habitué, mais nous allons reprendre le chant et cette fois nous allons chanter avec plus de conviction parce que nous connaissons maintenant un peu le chant. Reprenons depuis le début. Tous ensemble, lisez et chantons comme une prière.
Ne me laisse pas.
Et nous prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, Créateur de l'homme, Seigneur, nous t'avons rejeté. Seigneur, nous t'avons méprisé. Seigneur, nous avons foulé ta parole aux pieds. Seigneur, peut-être avons-nous marché loin de toi pendant des années. Nous avons contribué à instaurer la violence dans le monde. Toute forme de violence, toute forme de meurtre, car on peut tuer par l'arme, mais on peut tuer aussi par la langue avec des paroles blessantes. On peut tuer par des infidélités. On peut tuer, Seigneur, de diverses manières. Oui, Seigneur, comme ce larron, comme ce meurtrier. Nous reconnaissons que nous avons été parfois loin de toi et que normalement notre place c'est sur la croix. Mais nous te bénissons, ô Dieu. Nous te magnifions, ô notre Père, parce que dans ton amour, tu as permis à Jésus, notre divin Sauveur, de mourir sur la croix pour nous. Ce soir, Seigneur, nous reconnaissons que Jésus doit être tout pour nous. Que Jésus doit être à la première place, à la deuxième place et à toutes les places. Nous reconnaissons que rien ni personne ne doit passer avant Jésus. Car Seigneur, nous ne voulons pas être comme cette foule. Nous ne voulons pas réclamer un Barabbas avant Jésus. Mais nous voulons que Jésus soit sauvé, que Jésus soit dans nos cœurs. Et nous voulons que nous soyons sauvés parce que Jésus nous sauve. Ô notre Père, pardonne nos péchés. Ô notre Père, prends pitié de nous et promets-nous, comme tu l'as promis à cet homme, que nous serons dans ton paradis lorsque tu reviendras. Aide-nous à changer de voie, à changer de conduite. Aide-nous à prendre une décision pour toi ce soir, Seigneur. Seigneur, tes enfants sont là et te prient, mais tu sais que le mal est puissant, que le mal est enraciné dans notre chair. Mais par Jésus, par ton Saint-Esprit, déracine le mal en nous. Envoie-nous ton Saint-Esprit. Change nos cœurs, Seigneur. Change nos pensées, Seigneur. Change nos habitudes, Seigneur. Change nos priorités, Seigneur. Et donne-nous d'aimer ta parole. Ô Dieu, bénis ton peuple, bénis tes enfants, ramène-nous à toi. Ainsi, lorsque tu reviendras, nous pourrons t'acclamer comme roi des rois et Seigneur des seigneurs. Seigneur, permets que dès aujourd'hui, tu sois roi des rois et Seigneur des seigneurs dans nos vies, afin que lorsque tu reviendras, nous ne soyons pas confus, mais nous soyons dans l'allégresse. Seigneur, bénis-nous, renvoie-nous avec ta paix, mais surtout ramène-nous ici demain soir. Au nom de Jésus, nous te prions et pour ta gloire éternelle. Amen. Soirée vous est souhaitée dans le nom de Jésus. Que le Seigneur lui-même vous accompagne, qu'il vous bénisse, qu'il vous garde. Et à demain soir, si Dieu veut, venez recevoir les bénédictions du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.
Demandez-vous comment ma vie a été changée.